Chapitre 27. Edgar Degas. Il faut danser sa vie. À la brocante, l'amateur de Vertouni était revenu encore et encore. Et ce petit miracle avait essaimé. Des clients affluaient et les marchandises s'écoulaient bien. Mona avait d'ailleurs remarqué que son père, rasséréné, passait sur les jukebox des musiques beaucoup plus entraînantes qu'à l'accoutumée, et en particulier du début des années 1980. France Gall, psalmodiant, résiste. Parfois, elle et lui serraient le poing, s'en faisaient un micro imaginaire et entonnaient la chanson en duo. Depuis quelque temps, Mona avait une idée en tête. Si les figurines Vertouni venaient de sa grand-mère, elle en déduisait que peut-être, ailleurs dans la brocante, il y avait de vieilles caisses en rapport avec cette mystérieuse Colette dont l'image l'habitait de plus en plus. Et comme les adultes s'obstinaient à ne rien lui dire à son sujet, Mona enquêta de son côté. On se rappelle qu'il y avait à la boutique un espace qui la tétanisait, la trappe qui menait à la cave. Un jour, alors que Paul discutait longuement au téléphone avec son comptable, elle décida de s'y aventurer. Elle ouvrit les deux lourds volets qui l'obstruaient, glissa le long de l'échelle et plongea dans une pénombre qui remuait le sinistre souvenir de ses crises de cécité. Elle serra son pendentif, comme s'il avait la propriété surnaturelle de produire de la lumière et de chasser les spectres. En réalité, le maigre faisceau de clarté venait de la trappe ouverte au-dessus de sa tête. Glacée, effrayée, elle avançait à pas compter, mais parmi l'obscure fourbi, elle identifia trois cartons d'aspect exactement similaire à celui qui renfermait les Vertouni. Était-ce là encore les affaires de sa grand-mère? Elle approcha, examina celui qui se trouvait à son niveau, vit des amoncellements d'enveloppes en papier kraft. Elle en saisit une quand son père l'appela au loin. Son cœur bondit. Elle dissimula instinctivement le maigre butin à la taille de son pantalon, se précipita jusqu'à l'échelle, remonta en un éclair et cria « J'arrive, papa !» La journée s'écoula et Mona attendit d'être tranquille dans sa chambre pour observer sa rapine de plus près. « Hourra !» se dit l'enfant. « Voilà mamie !» Dans l'enveloppe, il y avait une petite coupure de presse jaunie. Elle était du 9 septembre 1967 et était titrée « Colette Juillemin, son indigne combat pour la dignité », illustrée par la photographie d'une femme isolée et prise à partie par des gens ostensiblement agressifs. Cette femme, c'était Colette, si jeune qu'elle en était méconnaissable. La petite voulut lire le vieil article, mais en saisit d'autant moins le sens qu'elle était bouleversée par ce qu'elle y sentait. Une déferlante d'hostilité contre sa grand-mère. Le texte parlait de manifestations, de maladies, de morts, et même de prison. C'était lourd, désagréable. Mona avait l'impression que son aïeul était souillé et brûlait d'aller en parler à ses parents. Mais elle savait qu'elle se ferait alors blâmer sans ménagement. Son grand-père, il n'avait jamais pu discuter de ce sujet et c'était là un interdit beaucoup trop menaçant. Mona triturait son pendentif, cherchait à se raisonner. Après tout, peut-être pourrait-elle investiguer avec l'aide du docteur Van Horst. Et puis surtout, le 9 septembre 1967, c'était il y a tellement longtemps, les choses avaient dû changer ensuite. Elle se raccrocha à cette pensée qui la réconforta. L'esplanade du musée d'Orsay était un lieu tout trouvé pour se faire un peu d'argent auprès des touristes et, ce jour-là, Mona tomba sur un numéro de statisme. Entièrement grimé et costumé en blanc, trois personnes mimaient la pose d'un groupe sculpté comme s'il s'agissait d'un cortège antique figé dans le marbre. Elle fit remarquer à son grand-père que c'était tout de même curieux de gagner des sous sans bouger. Henri trouva la remarque pertinente. Du reste, il avait horreur de ses performances visant à l'effort dans l'inertie. Il se sentit toutefois plus embarrassé encore quand il vit qu'un teckel sans laisse gambadait allègrement autour du trio statufié et menaçait clairement d'aller soulager sa vessie sur une des jambes Saint-Jean-la-Pierre. L'animal faillit s'exécuter. Le trio bougea d'un coup et pesta contre la bête en liberté. Mona riait très fort et Henri la prit par la main pour retrouver un peu de sérieux auprès d'une autre performance, plus aérienne. La figuration d'une danse, par Edgar Degas. C'était une vue plongeante, très dynamique, sur une scène de spectacle grise au fond de laquelle on voyait en guise de décor une petite maison vaguement brossée. Une jeune danseuse avait surgi sur le plateau et l'occupait dans la partie droite de la composition sur environ le tiers de la surface de l'œuvre. Elle saluait le public dans cette position si particulière qu'on nomme « arabesque penchée », qui consiste en un allongement des membres et à dessiner une diagonale avec le corps. Dans l'œuvre, la jambe tendue en appui sur un pied plat qui soutenait la jeune fille était visible, mais celle de gauche, à cause du raccourci, était totalement absente. Le buste se projetait vers le public, et le visage rose, dont les yeux mi-clos suggéraient une discrète extase, basculait en arrière. La tête était coiffée d'une tiare fleurie, le cou cerclé d'un ruban noir. La tenue, d'un blanc argenté étincelant, était constellée de quelques pétales de couleur chaude. À l'arrière-plan, essentiellement placée dans l'angle supérieur gauche de la composition, dans une sorte de profondeur oblique par rapport à la danseuse, on remarquait des coulisses étranges. Au lieu des rideaux, appelés pendrillons, qui normalement les cachent et les rythment au théâtre, c'était des espèces de cavités qui semblaient évoquer, par le mélange de touches ocre et plus discrètes de verre, un espace naturel. Peut-être un décor latéral de falaise creux en plusieurs endroits. Et dans ces creux, on apercevait des silhouettes statiques traitées à grands traits. Trois autres danseuses et, au plus rapproché, un homme en costume noir dont le visage était caché. Mona, son grand-père ne l'ignorait pas, se montrait imperméable au rêve de devenir danseuse. Elle n'avait jamais revêtu de tutu et l'expression « petit rat de l'opéra » lui était inconnue. Toutefois, elle parla de ce qu'elle vit avec une urgence dans la voix qui rappelait celle qu'elle avait eue devant le couple d'amants peint par Gainsborough. « Regarde, Daddy, elle est heureuse. Ça se voit à cause du geste qu'elle fait. C'est difficile à dire ce que c'est ce geste, mais on dirait qu'elle vole. Regarde, elle vole. Et tu vois en plus, elle est en blanc et son costume ressemble aux plumes d'un oiseau. On dirait un oiseau blanc, peut-être même un cygne. Et attends, Daddy, regarde. Derrière, il y a des gens aussi. C'est la danseuse qui intéresse l'artiste, mais il y a autre chose aussi. Il veut nous ouvrir les yeux sur les filles qui sont dans son dos. Et puis, il y a un monsieur en noir. Regarde, le peintre montre seulement son pantalon et un bout de son habit. Mais sa tête est cachée. Et ça, Dadé, c'est comme dans les films qui font peur. On cache la tête et du coup, eh ben, c'est impossible de dire qui c'est. Ça fait un suspense. »
La tournure incongrue de la phrase fit rire Henri.
« Il fait un peu peur, ce monsieur en noir. Mais elle, elle est contente. Elle, elle vole. »
« C'est très bien dit tout cela, Mona. Encore qu'il faille se demander comment naît l'impression aérienne que tu as. Examine la danseuse sur la scène, et plus particulièrement sa ligne de bras. Le droit est plié, le gauche déployé. On comprend qu'elle s'adresse à un public que nous ne voyons pas. Degas en suggère la présence sans l'intégrer à sa composition. Tandis que le public reste hors champ, Mona répéta l'expression à mi-voix, la danseuse lui fait la révérence. C'est un remerciement à son adresse, un salut gracieux.
Mais nous, Dadé, est-ce que ça veut dire qu'on est exclu du public ?
Nous sommes dans le public, mais en un lieu bien particulier. La position depuis laquelle Degas nous donne à regarder sa danseuse se situe vraisemblablement dans une loge latérale en hauteur qui offre une perspective bien particulière grâce à laquelle quelque chose disparaît.
Une jambe.
Oui, la jambe tendue vers l'arrière est escamotée à cause de l'angle. Et voilà comment naît l'impression aérienne.
Je vais dire une bêtise, mais souvent, Dadé, tu dis que l'artiste fait des contrastes,
elle s'appliqua à bien dire le mot,
dans ses tableaux. Là, je trouve que c'est entre la fille qui vole et ce que je t'ai montré dans son dos. des danseuses en blanc et un monsieur en noir qui reste tout droit. Ce n'est pas bête du tout. Degas donne le sentiment d'être pur spectateur de ce qu'il voit. Mais il est en réalité une sorte de metteur en scène. Il ne réalise pas cette image sur le vif à l'opéra. Il s'inspire de ce qu'il y a vu pour ensuite recréer en atelier une vision qui lui est propre, où il s'arrange pour exprimer ce qui l'intéresse, plutôt que de retranscrire les choses à la manière d'un reporter. Ici, cette vision combine deux réalités, celle de la scène et celle des coulisses, qui sont figurées d'une drôle de manière, presque informe. On dirait des grottes, absolument. Et Degas fait contraster l'éclat vibrant de la danseuse étoile et le statisme sévère dans son dos. La présence d'un homme en noir rappelle par ailleurs que se dissimule dans l'ombre une autorité masculine violente et ingrate. Degas n'était pas seulement le peintre des danseuses, comme on l'a dit, mais celui de tout ce qui compose l'atmosphère de la musique et de l'opéra en général, y compris l'oppressante autorité d'hommes adultes sur des enfants. Henri méditait. Il eût fallu expliquer la personnalité de l'artiste, personnage odieux et fascinant, admiré des poètes de son temps, notamment Stéphane Mallarmé et Paul Valéry. Personnage si follement exigeant envers lui-même et autrui, qu'il en devenait souvent intolérant et misanthrope. L'homme en noir de l'arrière-plan, c'était un peu Degas, terrible avec ses modèles, leur hurlant sa colère et les faisant pleurer tant qu'ils n'obtenaient pas la mimique ou la pose qu'ils souhaitaient. Le peintre aimait dire « L'art, c'est le vice. On ne l'épouse pas, on le viole. » Mais raconter cela à Mona, c'était risquer de compromettre ce qu'Henri voulait lui faire comprendre de l'œuvre. Regarde bien, Mona. On sent combien Degas fut un expérimentateur et même un bricoleur. Dans l'histoire de l'art, on distingue traditionnellement les techniques. Mais Degas, lui, les croisait, les combinait. L'exemple le plus connu en la matière, c'est sa sculpture intitulée « La petite danseuse », qui associait un moulage en cire avec un véritable jupon et des cheveux de crin. Elle fit un énorme scandale quand elle fut exposée en 1881, non seulement parce que c'était tout à fait contraire aux conventions de mêler une matière artificielle avec des éléments réels, mais aussi parce qu'on jugea la pauvre fillette qui servait de modèle laide et douteuse. Dans ce ballet, on retrouve un mélange tout aussi curieux. Degas a d'abord fait un monotype. C'est un genre d'estampe particulier où l'on applique de la peinture ou de l'encre partout sur une plaque de métal. Henri mimait les gestes. On gratte et essuie ce médium liquide pour dessiner l'image. On recouvre ensuite la matrice ainsi élaborée d'un papier humidifié, puis on la passe dans une presse qui crée le négatif de ce qu'il y avait sur la plaque. On ne pouvait obtenir qu'un seul tirage vraiment net. C'est pour cela qu'on parle de monotype. Mono signifie en grec « une fois » et type « marque ». Cependant, Degas fait de temps en temps un autre tirage, et l'empreinte devient très légère, presque évanescente, et il profite de cette qualité moindre pour retravailler dessus avec du pastel. « Ah, Dadé, là c'est comme papa à la brocante. Je comprends quand il bricole, mais quand il me raconte... » Elle fit une grimace charmante. « Oula !» « Donne-moi juste une petite chance. » Degas, te disais-je, pratique ensuite le dessin. Il fait souvent appel à un chimiste et biologiste élève du célèbre Pasteur, qui s'appelle Henri Rocher, afin qu'il lui confectionne des bâtonnets de pastel aux couleurs nuancées et variées. Regarde comme il va les appliquer au niveau du tutu. Ce sont les traces colorées qui en rendent le dynamisme et lui donnent un éclat digne d'une étoile. « Bah alors, Dadé, c'est comme Monet, dit ?» Soit. Degas était en effet un ami des impressionnistes. Et bien qu'il détestât ce terme, il fut même associé à ce groupe. Mais il ne jurait que par le travail en atelier. Vivait reclus dans sa demeure, doté par ailleurs d'une prodigieuse collection de tableaux anciens et modernes. Il recourait à des études, à des photographies, mais surtout à sa mémoire. Tu te rappelles Monet qui allait peindre sur le motif avec son chevalet portatif, ses toiles et sa palette aux quatre vents? Eh bien, Degas, lui, exécrait cette pratique au point de réclamer un jour au gouvernement de surveiller les gens qui font du paysage sur nature. Mais il y a autre chose encore.
Quoi ?
Rappelle-toi, avec Monet, les touches fragmentées de peinture à l'huile conféraient au tableau son caractère impressionniste. Là, ces fragmentations sont plutôt celles de lignes. Comme Fantin et les impressionnistes, Degas aimait Delacroix et ses couleurs flamboyantes. Mais il appréciait tout autant son grand rival, dont je ne t'ai jamais parlé, et qui fut pourtant un artiste majeur du XIXe siècle, Jean-Auguste Dominique Ingres. Or, chez Ingres, c'est la ligne, le trait qui prime sur tout, parce que le trait, s'il est conduit d'un geste juste et sûr, saura tracer les corps et les attitudes les plus gracieux. Moi, Dadé, je trouve que c'est elle, la danseuse, qui a la grâce. Disant cela, l'enfant fit une révérence à l'œuvre de Degas sur une seule jambe et manqua de basculer dessus. Henri la rattrapa et le gardien de la salle applaudit le réflexe du vieil homme. Un geste, poursuivit Henri, semble toujours avoir une portée, une justification. Dans la vie, nous en faisons des quantités infinies. Parce que nous devons nous déplacer, nous marchons. Parce que nous devons manger, nous portons une fourchette à notre bouche. Parce que nous devons dormir, nous nous allongeons. Ces gestes ont leur utilité journalière. Mais le geste de la danse n'en a pas. Il existe simplement pour lui-même. C'est un geste soustrait à son quotidien pratique. C'est un geste pour la beauté du geste. Écoute Degas lui-même à ce propos. Il a signé quelques jolis poèmes, et au sujet d'une ballerine, il écrit « Et ses pieds de satin brodent comme à l'aiguille des dessins de plaisir. » Des pieds qui brodent. Mona fit remarquer à son grand-père que c'était quand même un peu étrange. Henri n'était pas tout à fait d'accord. Les danseuses, quand elles avancent par petits pas coupés, lui faisaient parfois penser à des machines à coudre. Mais il reconnut que, pris au premier degré, l'alexandrin s'avérait incongru. Il adorait cette manière qu'avait l'enfant de ne rien prendre pour argent comptant, de ne jamais se laisser impressionner par une autorité artistique ou littéraire. « Tu vois, reprit-il, ce que nous dit cette œuvre, c'est qu'une vie ne doit pas seulement se vivre, il faut la danser aussi. Peu importe que nos gestes, nos actions, nos comportements échappe parfois au cours habituel des choses avec ses enchaînements mécaniques et sans fin, propres aux usages et aux contraintes. Peu importe cet arrachement, si c'est pour danser sa vie. Mona se tut. C'était bien curieux cette idée que l'on pouvait aussi danser sa vie. Elle repensa à ses leçons de grammaire avec Madame Hadji. La vie était-elle donc le complément d'objet direct de danser ? Oui. Alors dans sa tête, Mona se plut à faire broder ses pieds comme une machine à coudre.